grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Et ce matin, on se demande si les écrans modifient notre cerveau, notre comportement. Smartphones, tablettes, jeux vidéo, ordinateurs sont devenus omniprésents dans notre vie quotidienne. Nous utilisons nos téléphones intelligents au moins 4h22 minutes par jour en moyenne, selon un baromètre de l'Institut BVA. Au fil des décennies, les écrans ont changé notre manière de vivre, de travailler, de percevoir le monde. Mais est-ce que le digital modifie également notre fonctionnement cérébral ? Du point de vue, par exemple, de l'attention ou de la mémoire. Quels sont les effets d'une sollicitation permanente des outils numériques sur notre encéphale ? On se demandera également si la forte utilisation des écrans entrave le développement cognitif des enfants. Avec nous ce matin, l'éminent professeur en psychologie cognitive, Olivier Houdet, le non moins éminent Pierre-Marc de Biasi, directeur de recherche émérite au CNRS, et Audrey Boëli, journaliste scientifique à Saint-Intéresse, notre complice ce matin. Et vous, avez-vous l'impression que les écrans modifient votre attention, votre mémoire, affecte le développement cognitif de vos enfants et petits-enfants? Standard ouvert au 01 45 24 7000. Contactez-nous également sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Vous qui avez un gros cerveau, je pense que vous avez des tas de choses à nous raconter ce matin.
Gros cerveau hélas menacé par les écrans.
Et vous êtes rédacteur en chef de l'Hebdo Le 1. Et est-ce que vous êtes aussi en colère que les gilets jaunes là en ce moment partout en France?
Je ne suis pas sûr d'être aussi en colère, mais on discutera tout à l'heure.
Oui, parce que c'est la une du 1 hein, que vous évoquerez tout à l'heure. Allez, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour à nos invités, bonjour Olivier Houdet.
Bonjour.
Habitué de l'émission, vous dirigez le laboratoire CNRS de psychologie du développement et de l'éducation des enfants. Pierre-Marc de Biasi, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous publiez Le Troisième Cerveau, petite phénoménologie du smartphone, ouvrage absolument passionnant. Est-ce que vous pouvez expliquer aux enfants qui nous écouteraient peut-être ce matin ce qu'est la phénoménologie ?
Disons que c'est le ressenti au quotidien, dans la façon dont un objet technique peut affecter notre manière de vivre, quoi. Voilà.
Audrey Boëli, journaliste scientifique à Saint-Intéresse, vous publiez un dossier intitulé « Le digital modifie-t-il notre cerveau ?» Alors, Olivier Houdet, de façon très globale, hein, on affinera au fil de l'émission, est-ce que vos recherches en laboratoire montrent un impact des écrans, du digital, sur notre cerveau, celui des adultes et celui des enfants ?
Oui, les écrans ont un impact sur le cerveau. Le cerveau, c'est 80 milliards de neurones et 1 000 000 000 000 000 de connexions. Donc, ce qui compte, c'est la façon dont ces connexions s'établissent et les réseaux de neurones se reconfigure. À l'époque de la révolution de l'imprimerie, les livres ont reconfiguré les réseaux neuroculturels du cerveau. Aujourd'hui, les écrans reconfigurent ou créent de nouveaux réseaux neuroculturels dans le cerveau, parce que votre cerveau est toujours en relation avec l'environnement technologique, comme cela vient d'être dit, et le cerveau s'imprègne et apprend avec les nouveaux objets technologiques.
Audrey Boëli, que se passe-t-il dans notre cerveau quand notre portable vibre, sonne ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, beaucoup de choses dont nous n'avons pas conscience, mais justement, si on ouvre notre boîte crânienne, on va se rendre compte que tout un tas d'aires cérébrales sont stimulées. Déjà, quand en fait une vibration ou notre téléphone s'allume pour nous indiquer une notification, tout de suite, ça déclenche notre attention automatique, en fait, qui est faite pour nous alerter normalement d'un danger, voilà, pour nous mettre en alerte. Et donc, c'est cette attention automatique qui est située, entre autres, au niveau du lobe pariétal, qui va se déclencher. Ensuite, c'est le cortex préfrontal qui va rentrer en action. En fait, ce cortex préfrontal, il peut nous aider à résister ou non à la tentation de prendre notre smartphone en main pour regarder ce qui s'est passé, si c'est le message qui est arrivé. Donc, c'est ce cortex préfrontal qu'on peut éventuellement entraîner pour essayer de ne pas se faire happer en permanence par nos appareils numériques. Mais si le cortex préfrontal ne nous donne aucun signal, ensuite, c'est le cortex moteur qui va entrer en action et déclencher l'action de prendre le smartphone en main. Et ensuite, il se trouve que les informations qu'on va trouver sur notre smartphone, c'est-à-dire un nouvel email, des notifications Facebook, etc., tout ça va déclencher ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans notre cerveau. Donc, c'est un circuit qui est lié normalement à des activités vitales comme manger, boire ou se reproduire, et qui déclenche la synthèse de dopamine, qui est une molécule qui en fait, qui déclenche du plaisir et qui donne envie d'y revenir, quoi. Mmh. Voilà.
Et puis, qui peut créer de la dépendance aussi, Pierre-Marc de Biasi.
Bah, le phénomène d'addiction du smartphone, c'est pas seulement lié à la dopamine, mais c'est clair que la dopamine, c'est une façon dont l'ancien cerveau, le premier, envoie vers le corps une satisfaction dont on a envie qu'elle recommence. Hein, qu'elle...
Olivier Houdet.
Oui, tout ce qui est dit est exact. Il faut en plus ajouter la vitesse. C'est-à-dire que le rapport aux écrans nous fait répondre de plus en plus vite. Et on confond quelquefois vitesse et intelligence. Parfois, répondre vite, c'est être intelligent. D'autres fois, non. Il faut, comme vous l'avez dit, utiliser son cortex préfrontal pour prendre du recul et réfléchir.
Pierre-Marc de Biasi, après notre cerveau, notre encéphale, notre intestin est considéré comme notre deuxième cerveau par de nombreux chercheurs et médecins, avec ses 100 à 200 millions de neurones. Et il existerait donc un troisième cerveau, le smartphone.
Bah, c'est le numéro que je lui ai donné, j'essaie de labelliser tout de suite avant que quelqu'un d'autre trouve, c'est pas avec la peau, mais pour être aussi une espèce de troisième cerveau. Non, disons que c'est quelque chose qui ressemble quand même de plus en plus à une prothèse, qui est pour le moment hors de notre corps, dont on entend chez les adolescents dire qu'au fond, si on rentrait dans le corps, ce serait pas un problème, peut-être même que ce serait souhaitable. Donc on est en face de quelque chose qui est quand même très paradoxal, hein, une extériorité, mais qui joue un rôle très proche de ce que nous sommes habitués à mettre en œuvre quand nous utilisons notre cerveau pour penser, pour agir, etc.
Est-ce que nous vivons la même chose qu'avec la calculette il y a une quarantaine d'années ?
On peut se dire ça, et ça c'est assez inquiétant, parce que la calculette nous a appris à ne plus calculer. Et si le smartphone nous apprend à désapprendre, là on est sur une pente quand même très savonneuse. Il semble que les choses soient pas aussi claires que ça. Le smartphone peut nous apprendre à apprendre, mais pour le moment il est un peu dans la problématique de la calculette, apprendre et désapprendre.
Olivier Houdet, vous partagez l'idée que le smartphone, le téléphone intelligent, serait un troisième cerveau électronique communiquant extérieur à notre corps et que nous gardons constamment à portée de main. C'est un troisième cerveau pour vous ?
Non, pour moi, pardonnez-moi, mais la métaphore n'a pas vraiment de sens. C'est une mémoire externe, comme les livres et les bibliothèques furent jadis des mémoires externes. C'est une nouvelle mémoire externe. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le cerveau que n'a pas un smartphone. Le cerveau, il est dans le corps, relié au corps par le tronc cérébral. Il y a dans le cerveau des émotions corporelles qui se cartographient par des sentiments. Et tout cela, un smartphone ou toute autre machine n'a pas, et l'intelligence artificielle reste quelque chose d'extrêmement spéculatif. Donc non, ce n'est pas du tout un cerveau, parce qu'un cerveau est habité d'un instinct de survie. Il y a un défi, un enjeu. Or, évidemment, votre smartphone, tous ceux qui sont sur cette table n'ont absolument aucune émotion, aucun instinct de survie. Donc, il n'y a pas de raison, je suis neurobiologiste et psychologue, d'appeler cela un cerveau. En revanche, c'est amusant.
Mais tout de même, Pierre-Marc de Biasi, le smartphone rivalise aujourd'hui avec notre cerveau. Il dépasse parfois même notre cerveau dans certains domaines. Et vous le dites dans votre ouvrage, chaque jour, nous libérons un peu plus notre mémoire pour la déléguer à notre smartphone.
Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu par provocation, hein, que j'ai appelé ce livre « Le troisième cerveau », mais par provocation et par alerte quand même, parce qu'il me semble que c'est un événement qui n'est pas indifférent. En 10 ans, vous voyez, le nombre d'utilisateurs dans le monde est colossal. On est à plus de 2,5 milliards. On approche les 3 milliards. On a un taux de renouvellement d'1,5 milliard par an. Il s'agit d'une montée en puissance vertigineuse, et on est au milieu du guet. Dans les 10 ans qui viennent, c'est la 5G et l'intelligence artificielle qui vont entrer progressivement en jeu dans cet outil. Alors, pour le moment, c'est sans doute exagéré de parler de troisième cerveau, mais on est en face de quelque chose qui est très difficile à imaginer pour les impacts qu'il peut avoir dans les 10 ans qui viennent. C'est pourquoi d'ailleurs, bon, il n'y a pas d'émotion, nous disait Olivier Houdet tout à l'heure, mais on sent bien que le téléphone portable cherche à les imiter, cherche à les simuler. Vous voyez, et est-ce que cette simulation ne va pas prendre une place très puissante lorsque la 5G et l'intelligence artificielle seront là?
C'est une vraie question. J'ai un livre à venir, vous me réinviterez, chez Odile Jacob, qui paraît sur ce sujet cet hiver. Je dirais simplement ce qu'on peut dire aujourd'hui, hein, de factuel, c'est qu'en effet, ces machines externes ont une mémoire sans doute plus grande à la nôtre, mais une fois de plus, ce n'est pas nouveau dans l'histoire culturelle et des civilisations. La bibliothèque d'Alexandrie était un énorme cerveau, on pourrait dire, à ce moment-là. Et elle a brûlé. Ont une mémoire et une puissance de calcul qui, en effet, permet de battre l'homme dans certains jeux, comme le jeu de Go ou d'autres. Mais, en revanche, non pas tous ces autres aspects que j'ai évoqués. Quant à l'intelligence artificielle, on est très, très loin d'y être. Et le défi, c'est, au contraire, d'apprendre les deux, d'apprendre le numérique, le littéraire, et d'apprendre à combiner intelligemment les deux, et cela dès l'enfance.
Pierre-Marc de Biasi est un lanceur d'alerte, en quelque sorte. Est-ce qu'on ne délègue pas trop de choses à nos écrans, à nos smartphones, à nos tablettes, Olivier Houdet?
Oui, il faut faire très attention. Moi, j'ai publié avec l'Académie des sciences et Le Pommier un manuel pour enfants qui s'appelle « Pour un usage raisonné des écrans », dont les smartphones. Il faut, par exemple, apprendre aux enfants à évaluer le temps qui passe face à l'écran. Et vous pouvez le faire par des petits jeux où un enfant a un chronomètre, l'autre joue ou recherche des informations sur écran. Celui qui a été actif évalue son temps subjectif, et l'autre a le temps objectif du chronomètre. Et il est toujours totalement décalé, c'est-à-dire que le temps subjectif est inférieur au temps objectif. Et ce décalage apprend au cerveau à mieux gérer le temps. Et aujourd'hui, vous me le disiez à l'instant, Ali, qu'il existe sur les smartphones la possibilité pour chacun de calculer son temps d'écran chaque jour. Faites-le, c'est un exercice de conscience réflexive. Et il faut le faire aux enfants, soit par ces applications qui existent, soit par le jeu. Et cela crée de la métacognition, c'est-à-dire qu'il va réfléchir à l'usage de son cerveau avec les écrans.
Et je vais révéler au monde entier mon temps d'écran hier, voilà. 6h33. Et c'était faux. Surtout pour le travail. Et vous, Julien Bisson, votre temps d'écran hier?
C'était moitié moins. mais je voulais rebondir surtout sur ce que disait Olivier Houdet tout à l'heure, sur le fait que quand le livre est arrivé, quand l'imprimerie est arrivée dans les années 1500, il y a eu à ce moment-là une véritable inquiétude.
Exactement.
Sur la façon dont le livre allait révolutionner notre façon de penser. Le livre a supprimé, par exemple, la capacité que nous avions d'apprendre par cœur, parce que nous n'avons plus besoin d'apprendre par cœur autant d'informations puisque ces informations allaient se retrouver dans les livres. Et donc, il a fallu à ce moment-là repenser, enfin, notre cerveau s'est reconfiguré.
Il y avait avant une culture orale, vous avez tout à fait raison.
Et donc là, on est aujourd'hui à un moment de changement dans lequel il faut s'adapter et dans lequel notre cerveau, on va devoir s'adapter aux évolutions que notre cerveau va
Pierre-Marc de Biasi.
Oui, je crois qu'il y a un petit malentendu là dans la discussion quand même, parce que le smartphone, c'est pas l'informatique, c'est pas le numérique. Le smartphone, c'est un outil opportuniste qui se sert de l'informatique et du numérique pour capter notre attention et pour faire en gros de nous des consommateurs ouverts. Hein. C'est la loi de Lelay, c'est du temps disponible de cerveau.
Et le smartphone, ce n'est rien d'autre.
C'est pas le livre, vous voyez, c'est pas l'imprimerie, c'est pas l'informatique, c'est un petit outil opportuniste qui a vocation à quand même nous transformer en une espèce d'esclave, quoi.
Allez, dans quelques instants, on s'intéressera à ce que font nos écrans sur notre attention, notre mémoire et le développement cognitif des enfants. Question témoignage, réaction au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Hier, nous avons consacré une émission aux abus sexuels sur mineurs et vous nous avez demandé où se procurer le livret destiné aux 7-13 ans qui permet de libérer la parole, briser le silence et surtout prévenir les violences sexuelles. Et ben, c'est sur le site Bayard Jeunesse ainsi que sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Laura Laplot et c'est exceptionnellement réalisé par le grand Éric Lenné.
Je veux vous parler de l'âme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants.
Téléphone interprété, la bombe humaine.
Au pire, j'ai plus de batterie, c'est un, je rentre chez moi, je me fais renverser, je tombe dans le ravin, je peux pas plus les squats, je décède.
Grand bien vous fasse.
Et tu peux plus jouer à Candy Crush non plus.
Sur France Inter.
Je vais recharger alors ?
Ouais.
10h24 et ce matin avec le mensuel Ça m'intéresse, on se demande si le digital modifie notre cerveau, notre attention, notre mémoire, le développement cognitif de nos enfants. Et une réflexion de Fabrice Dumont. Bonjour Fabrice, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour, bonjour à toute l'équipe. Oui, la réflexion, c'était suite à la lecture d'un livre, je n'ai plus le nom des auteurs, mais ça s'appelle L'homme nu. C'est ma fille a étudié ça au lycée, ça l'a aussi un petit peu interpellée. Et notamment dans un chapitre, il est mis que tous les concepteurs de toute cette nouvelle technologie qui viennent de la Silicon Valley, eh bien, la plupart, leurs enfants vont dans des écoles privées sans écran, des écoles avec des tableaux noirs. Mmh. Et nous, on a des pouvoirs publics qui veulent mettre en place des écrans, des systèmes connectés dans les écoles primaires. Ça m'interpelle quand même un petit peu. Ça fait comme si des gens qui envoient, qui travaillent, mettons des agriculteurs avec des élevages intensifs, de les vendre pour la grande distribution. Et puis de leur côté, eux, ils préservent leurs enfants en leur faisant manger autre chose. C'est un peu dans le même esprit. Donc ça m'interpelle quand même beaucoup.
Fabrice, vous faites référence à L'homme nu de Marc Duguin et Christophe Labbé, sous-titré La dictature invisible du numérique est disponible en poche. Pierre-Marc de Biasi sur la réflexion intéressante de Fabrice.
Je crois que c'est un peu naturel que les pouvoirs publics fassent entrer le numérique à l'école. C'est très difficile d'imaginer une école complètement coupée de la réalité. Or, la réalité, c'est le numérique du lever au coucher, et même peut-être un peu après. D'un autre côté, oui, sûrement qu'il y a une maîtrise à... Pour le smartphone, par exemple, je pense qu'il est bon d'interdire le smartphone à l'école parce que c'est incompatible avec le rythme scolaire et l'attention à l'école. Mais il serait encore meilleur d'enseigner le smartphone à l'école. C'est-à-dire ses dangers, ses capacités, ses moyens.
Voilà. Olivier Houdet.
Tout à fait d'accord avec cela. Si vous voulez, les smartphones sont pour le cerveau comme des sucreries. Imaginez que l'on dise, on interdit les sucreries à l'enfant, comme font les patrons de la Silicon Valley pour les ordinateurs à l'école. Eh bien, vous imaginez ce qui se passera dès que l'enfant sera libre, n'aura pas d'autonomie, il va plonger sur les sucreries et les engouffrer. Donc, c'est pas du tout cela qu'il faut faire. Ce sont des grands informaticiens, peut-être, mais en termes d'abord d'éthique et de psychologie, les patrons de la Silicon Valley ne sont absolument pas compétents. Au contraire, il faut évidemment contrôler le temps d'écran, qui ne soit surtout pas supérieur à celui du livre aux activités réelles, physiques, sportives, cognitives et sociales, mais il faut mettre les enfants face aux écrans et leur apprendre à raisonner face aux écrans, comme on l'évoquait, à contrôler le temps qui passe, à prendre du recul, recul, à partager leurs informations avec d'autres. Il peut y avoir des interactions sociales et affectives autour de l'écran. Donc c'est un apprentissage. Interdire n'a jamais éduqué.
Audrey Boëlly de Saint-Mathérèse.
Parce que c'est vrai que si nous sommes sensibles aux écrans, il faut savoir et comprendre pourquoi les enfants sont finalement encore plus sensibles que nous. Parce que justement, pour revenir sur cette résistance cognitive liée au cortex préfrontal, chez les enfants, en fait, le cerveau est encore immature et donc cette zone cérébrale en fait n'est pas encore complètement développée. Donc c'est ce qui fait qu'ils ont encore plus de mal que nous à résister à l'attraction du numérique.
Fabrice.
Oui. Moi, ça me surprend un peu. C'est-à-dire que ces gens-là, ils conçoivent des choses et ils en préservent leurs enfants. Mmh. Et ça les gêne pas que les enfants des autres n'en soient pas préservés. Et j'entends vos interlocuteurs qui disent mais non, c'est pas grave parce que quand on dit éduquer, mais attendez, il y a des enfants où il peut y avoir une éducation sans problème autour d'eux pour les préserver des écrans, mais il y a beaucoup d'enfants, ils sont absolument pas préservés de ça. Et aujourd'hui, dans le système de consommation, on nous incite constamment à servir des écrans à tout âge. Aujourd'hui, on voit il va y avoir des jouets qui vont déjà être avec les écrans dès 3 ans, voire plus tôt. Mais c'est le système de consommation.
Pierre-Marc de Biasi. Vous oubliez une seule chose, c'est que les développeurs de Silicon Valley sont avant tout des gens qui doivent faire fonctionner la machine commerciale, et qu'avec 4 milliards de clients possibles, on fabrique des outils qui sont désirables, hein, avant tout. Et si on trouve que ces enfants à soi, vaut mieux les écarter de ces objets, on les écarte. Voilà.
Merci beaucoup Fabrice de nous avoir appelé ce matin.
L'attention est ce phénomène qui permet de focaliser son esprit sur une chose quelle qu'elle soit. Les spécialistes distinguent cependant deux types d'attention. Le premier est l'attention inconsciente, un processus automatique et constamment en action qui nous permet de réagir instantanément aux stimuli de notre environnement. Grâce à lui, nous prenons environ 6000 décisions par jour de façon inconsciente, comme le fait de sortir par une porte et non par la fenêtre, ou de regarder avant de traverser un carrefour. L'autre type d'attention est conscient, et donc plus lent. Il nous permet de nous concentrer sur un objectif déterminé. Or, contrairement à une idée reçue, cette attention ne relève pas d'une simple question de volonté. Ses fondements sont neurobiologiques avant même d'être psychologiques. C'est en premier lieu une question d'hormones, comme la fameuse dopamine sécrétée dans le cerveau et qui permet de hiérarchiser les informations. Tout dysfonctionnement hormonal peut donc entraîner des troubles de l'attention. Et ces troubles ne sont pas rares. 4 à 6% des enfants dans le monde en sont affectés.
Extrait de Futur Mag diffusé sur Arte. Alors, est-ce que les écrans altèrent vraiment notre attention, ce bien précieux que les GAFAM cherchent à capter avec profit? Les GAFAM, c'est l'acronyme de Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, et j'ajouterai peut-être le N de Netflix. Olivier Houdet, je rappelle que vous êtes professeur en psychologie cognitive.
En effet, l'attention est un processus extrêmement versatile, extrêmement sensible aux distractions, aux tentations extérieures. C'est pourquoi il y a aujourd'hui un vrai défi, et c'est cela qu'il faut dire aux parents ou aux auditeurs inquiets, comme le monsieur que nous avons écouté tout à l'heure, c'est d'apprendre à l'école cette résistance cognitive dont je parle dans mes livres, c'est-à-dire non pas, comme le font les patrons de la Silicon Valley, empêcher les écrans, les écarter, mais apprendre face à l'écran à résister, soit à ne pas l'utiliser, soit ne pas cliquer trop vite. Et vous l'avez très bien dit dans l'explication là, notre cerveau fonctionne en bonne partie de façon inconsciente et automatique, ultra rapide. Et en effet, les écrans et le neuromarketing sur écran essayent de déclencher ces réactions ultra rapides. Mais le cerveau peut fonctionner autrement. Vous l'avez très bien dit que le magazine, ça m'intéresse. Le cortex préfrontal sert aussi, ce sont d'autres régions, pas trop loin, à s'arrêter, à faire un découplage temporel et pendant cette rupture, réfléchir, inhiber l'automatisme pour activer une réflexion, un algorithme logique ou moral. Je pense aux autres et pas seulement à moi face à l'écran. Donc vous voyez que c'est plutôt finement cela qu'il faut faire que d'interdire ou surstimuler avec les écrans.
Audrey Boëlly, les vibrations, notifications, consultations incessantes de son smartphone, ça affecte notre attention?
Oui, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'on entendait dans l'extrait, c'est qu'il y a deux types d'attention. L'attention automatique qui nous prévient des dangers, nous permet de prendre des décisions très rapides. Mais pour, par exemple, lire un texte, en fait, on parle de notre attention volontaire. Et en fait, les notifications sur les smartphones, etc., ça ne fait que déclencher notre attention automatique. Et donc nous mettre en alerte en permanence. Et c'est ça qui crée en fait cette sensation de surcharge et qui fait aussi que notre attention volontaire n'a beaucoup plus de mal à la concentrer.
Olivier Houdet, oui. Cas pratique, que se passe-t-il dans mon cerveau si je vous envoie un SMS et qu'en même temps je regarde une vidéo sur une tablette, sans oublier la conversation en cours sur Facebook ou sur WhatsApp, on assiste évidemment à une chute de l'attention?
Ça veut surtout dire que vous ne ferez rien de profond. Vous allez être en permanence en superficie. Il y a des études scientifiques actuelles très sérieuses qui montrent que si précisément on est, comme vous venez de décrire, quelqu'un qui switch, qui est dans la culture du zapping, eh bien la mémoire,
multitâche,
la mémoire ensuite sera construite quand même, mais de liens, de métaliens. Et vous n'aurez pas construit des connaissances en profondeur avec le temps de faire une synthèse personnelle. Et donc oui, là il y a un vrai danger, moi je ne minimise pas du tout les dangers, d'avoir une attention trop distribuée, de telle sorte qu'il n'y ait plus de réflexion et de raisonnement. Le mot-clé pour moi, la valeur cognitive à préserver dans ce 21e siècle, c'est le raisonnement et le raisonnement humain.
Et est-ce qu'il est vrai que mon cerveau ne peut pas mener de front deux actions qui font appel au même réseau de neurones, sauf évidemment pour certaines activités que nous avons automatisées?
Oui, c'est ce qu'on appelle la double tâche. Et nous ne parvenons pas à faire deux tâches en même temps si l'une d'elles demande beaucoup de contrôle, d'attention volontaire. Vous le savez, quand vous avez appris à conduire une voiture, au moment où vous appreniez, toute votre attention, toute votre cortex préfrontal était dans cette activité-là et vous ne pouviez pas lire en même temps ou précisément regarder votre smartphone. Ensuite, vous êtes tout à fait capable de le faire lorsque la conduite est automatisée. Vous n'avez pas le droit, mais vous en êtes capable. Et c'est vrai pour tout. On ne peut pas faire deux tâches qui exigent du contrôle et une attention volontaire en même temps. Et si on le fait, eh bien, elles seront mal faites.
Audrey Boëlly.
Oui, voilà, parce qu'en fait, on a l'impression d'être plus efficace justement en multipliant les tâches, comme par exemple regarder une vidéo sur YouTube en répondant à des SMS. Mais ça, il faut comprendre que le cerveau ne peut pas les mener en même temps et en fait des allers-retours entre ces différentes tâches. Donc, perd du temps, finalement, on est moins efficace et en plus, on risque de commettre des erreurs.
Pierre-Marc de Biasi, je rappelle que vous publiez le troisième cerveau, petite phénoménologie du smartphone.
Sur ces affaires de multitâches, ce qui est fascinant, c'est que les ados, les jeunes, ont l'impression qu'ils pourraient bien reconfigurer leur cerveau pour être capables, comme l'ordinateur, d'être multitâches. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Ça donne les résultats sûrement discutables. Mais sur la malléabilité globale du cerveau, rien n'est complètement dit. Hein. C'est-à-dire que c'est aux dépens de beaucoup de choses que ça a lieu. Le résultat, c'est quand même qu'au rythme où les notifications, alertes, messages interviennent, on a un niveau d'attention sur le même objet qui aujourd'hui voisine les 20 secondes, quoi. Et au bout de 20 secondes, il y a toujours quelque chose d'autre qui vient s'ajouter à l'avalanche de nouveautés, comme si il fallait impérativement remplir le temps de quelque chose pour éviter l'ennui. Or, moi, je suis persuadé que l'ennui, le rapport au temps, le rapport pur au temps, est constitutif de la culture. C'est-à-dire que c'est dans l'ennui que on reprend conscience de soi, des questions, etc.
L'ennui fécond, disait Paul Valéry.
Oui. Audrey Boëlly.
Oui, ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que vous dites, c'est que cet ennui, c'est-à-dire quand on laisse nos pensées divaguer, voilà,
quand on rêvasse.
Exactement, quand on rêvasse, en fait, dans ce cas-là, le cerveau se met dans un mode particulier qu'on appelle le mode par défaut, et en fait, ce mode par défaut, il sert vraiment à construire la pensée, c'est-à-dire à s'appuyer sur nos connaissances pour construire une réflexion, avoir des idées, être créatif, et voilà, et construire notre pensée. Et donc, c'est très important, ces périodes, ces moments-là, et en fait, on en a de moins en moins, parce que tous les moments libre, quand on attend le bus, quand on est dans la queue du supermarché, ben on sort directement le smartphone et donc on en a moins.
Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Vous habitez Argenteuil et vous êtes, je crois savoir, prof de graphisme à Paris.
Oui, voilà, en fait, j'habite Ivry plus précisément, plutôt. Mais en fait, oui, je voulais vous rebondir un peu sur les questions d'attention et de disponibilité, justement, parce que moi, à l'inverse, il y a 5 ans, j'étais en train de faire un schéma au tableau et les élèves ne prenaient aucune note. Donc j'étais un peu surpris, donc j'ai attendu, j'ai fait mon schéma et à la fin, ils ont sorti leur mobile pour photographier le tableau. Donc ça m'a, vu que c'était général, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je me suis interrogé un peu sur ce phénomène-là et j'ai trouvé une étude dont j'ai pas relevé la source, malheureusement, une étude canadienne, me semble-t-il, sur les processus de mobilisation, de mémorisation. Parce qu'en fait, ils avaient l'impression, ils me le disaient, d'être parfaitement disponibles en écoutant. Et en fait, ils ont stocké l'image dans leur mobile. Mais en fait, le cerveau, sur les processus de mémorisation, en fait, j'ai lu des choses montrant que si jamais ils dessinent le schéma, il le réinterprète, donc il y a ce qu'on appelle un transcodage apparemment, donc il réinterprète les choses, et puis le processus qui permet vraiment, d'après ce que j'ai lu en tout cas, de mémoriser, c'est quand on a bien intégré l'information et qu'on la restitue à quelqu'un d'autre. Donc en fait, eux avaient l'impression d'être parfaitement disponibles, mais je suis pas certain qu'ils avaient, juste en écoutant en fait, parfaitement perçu en fait tout ce que j'expliquais, parce qu'ils en ont gardé la trace parmi les milliers de photos qu'ils ont dans leur smartphone, mais pour aller chercher l'image dont ils avaient besoin au niveau de l'information, je suis pas certain que ce soit viable en fait.
Olivier Houdet, ça c'est pour vous ça.
Oui. C'est très intéressant comme exemple. Je pense qu'il y a plein d'exemples comme ça qui surviennent soit à l'école, soit à l'université. Eh bien, je dirais qu'il faut être très prudent. Vous avez peut-être raison, mais il faut en effet mesurer quels ont été leurs résultats dans ces matières et voir réellement, scientifiquement. Nous, on étudie actuellement dans mon laboratoire du CNRS l'impact d'apprentissage sur écran, avec ou sans écran, 15 minutes par jour, en faisant une exploration en IRM du cerveau avant et après. Et on a train de trouver en effet que la ligne de base, la ligne dite de repos du cerveau bouge effectivement, mais reste à voir si c'est positif ou négatif. Je dirais simplement pour l'exemple qui a été donné que voilà, ils écoutent attentivement et ensuite ils prennent une photo du schéma plutôt que de laborieusement à la fois écouter et dessiner le schéma. Peut-être, pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle la vicariance, le fait que le cerveau utilise des chemins différents pour atteindre un même but. Il faut une fois de plus tester si cela aura été utile. Et moi, je dirais quand même, restons calmes et pensons que notre cerveau a plus d'imagination que nous et que peut-être les cerveaux de demain vont inventer des chemins d'apprentissage différents.
Pierre-Marc de Biasi.
Oui, moi, il me semble quand même que la photo du schéma au tableau ou de la courbe, etc., c'est un peu procédure de paresse aussi, hein, c'est-à-dire... On va pas se fatiguer à dessiner à la main, le machin, alors que au bout du compte, il suffira de prendre une. Et dans ne pas se fatiguer, il y a cette procédure de désapprentissage, quoi, dont on parlait pour la calculette tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a quand même, on sait bien que les choses qui nous paraissent maintenant archaïques, comme l'écriture, le dessin, l'orientation dans l'espace, c'est profondément enraciné dans ce qui constitue nos moyens cognitifs fondamentaux. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez perdu l'apprentissage de l'orientation, du devant, derrière, en haut, en bas, il y aura un gros souci, quoi.
Merci beaucoup Vincent pour votre question intéressante. Julien Bisson, chaque semaine dans l'hebdomadaire Le 1, vous portez un regard singulier sur notre société. Et cette semaine, vous vous intéressez à la colère qui gronde dans notre pays.
Et oui, la colère, ça ne vous a pas échappé. C'est le maître mot dans vos journaux depuis quelques jours et chacun cherche à comprendre les raisons de cette colère. Entre exaspération fiscale, lassitude politique ou ressentiment culturel. Mais on pourrait aussi se demander, tiens, puisque c'est le thème de cette émission, si la civilisation digitale elle-même ne venait pas favoriser notre colère. Mm-hmm. C'est ce que pense le psychologue Steven Pinker, par exemple, qui analyse dans nos colonnes le poids des réseaux sociaux. Il dit ceci, ils sont un territoire béni pour la part la plus sadique de la population. Et même si ces sadiques n'en représentent que 5 ou 10%, c'est suffisant pour causer beaucoup de conflits et de souffrances. Les réseaux sociaux encouragent l'hystérie des foules qui se traduit sur ces réseaux en mouvement collectif de colère, où chacun se sent autorisé, voire même contraint, de dénoncer des propos ou des individus. Et le psychologue de citer une étude menée à l'université Cornell aux États-Unis qui a montré combien on y est susceptible d'émettre des critiques péremptoires empreintes de colère par peur d'être soi-même critiqué si jamais on ne le faisait pas.
Steven Pinker, que nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques semaines dans Grand Bien vous fasse. Alors Julien, est-ce qu'il existe une colère typiquement française? Est-ce que nous serions ronchons par nature?
Eh bien, a priori, nous n'usurpons pas notre réputation de râleur. Dans toutes les enquêtes internationales sur le bonheur, les conditions de vie ou la santé perçue, les Français donnent des réponses si négatives que leur pays se classe systématiquement en mauvaise position, explique ainsi le sociologue Lou Wolf dans Le 1. Pire, d'après les calculs du très sérieux Observatoire du bien-être, pour un même niveau d'éducation, de santé, de chômage, de revenus et d'espérance de vie, le seul fait d'être né en France réduit de 20% la probabilité de se déclarer heureux. Bref, du malheur d'être français. Alors serions-nous, comme certains ont pu l'affirmer, un pays gangrené par la défiance envers les institutions, les autres, le reste du monde? Ou bien ces expressions négatives doivent-elles être interprétées comme le signe d'une certaine exigence démocratique, comme le signe que l'on aime bien puisque l'on châtie bien? Et puis, est-ce que l'absence de colère, au fond, est-elle vraiment à souhaiter? Puisqu'on parle dans cette émission de la civilisation digitale, il ne faut pas perdre de vue que de nombreuses entreprises du numérique, dont on a parlé tout à l'heure, les GAFA, considérées il y a peu comme des Eldorado de la qualité de vie au travail, sont aujourd'hui en proie à des conflits sociaux majeurs dénoncés par des salariés, estimant que leur liberté d'expression a été bridée. sociologues et psychologues du travail s'accordent aujourd'hui à dire qu'un certain niveau de controverse est finalement bénéfique aux organisations. Il faut donc espérer que ce mécontentement français soit moins la manifestation d'une mauvaise humeur passive et inutile qu'une juste et nécessaire réaction au désordre du monde. Comme l'écrivait Aristote, la colère est nécessaire, on doit l'utiliser non comme chef, mais comme soldat.
La France qui gronde, c'est le thème du numéro du 1 cette semaine, à retrouver en kiosque et en librairie. Dans quelques instants, on s'intéresse au lien entre les écrans et la mémoire. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, Mathieu Vidard et Lionel Nakache proposaient une conférence consacrée à la mémoire depuis la Maison de la Radio et diffusée dans une centaine de cinémas. Eh bien, sachez que cette conférence exceptionnelle est disponible en podcast sur l'appli et le site de France Inter ainsi que sur iTunes. Allez, continuez à nous appeler au 01 45 24 7000.
Pour ce qu'il est pour foncer, Odyssée mystifié, colisé, réparé, offensé. Dums, qui sont-ils quand ils n'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. De la gériatrie à la maternité, des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les deux barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain pour un semblant d'humanité. Charnels sont les générosités pour hypnotiser les gens. Pendant qu'on dit immigré, se mettent à copiner des clans. Se mettent à cotiser des camps. Je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con, serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton. Voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le en. Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. Jusqu'au fond de mon être, j'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Humain, j'suis plus trop humain, mais plus que humain quand je vois l'humain. Puis soudain plus rien, y'a plus trop d'humains que des terriens. C'est un grand terrain, qui sème, qui se tue, qui saigne pour rien. Comme un chérubin, la seule voix que je suivrai c'est celle de mes cordes vocales. Quand on meurt on ne fait pas appel, la vie a ses failles. Facture, courrier et rappel, pousse à faire du sale. Ils ne se veulent pas du bien, l'humain se fait du mal. Pour être ensemble devant nous vivre séparément. Je crois que dans l'ensemble c'est plus facile quand on se ment. Y a des gens comme moi qui ne savent plus trop ce qu'ils sont. Qui se posent la question, mais qui suis-je vraiment quand je ne suis plus vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être.
Damso, interprété humain, et je crois que c'est l'un des titres préférés de l'un de nos invités, Olivier Houdet. Ah, vous écoutez ça en boucle, donc.
Ah oui, absolument. Mais quelquefois, quand même, je résiste.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h46 et ce matin avec le mensuel Ça m'intéresse, on se demande si le digital modifie notre cerveau, notre attention, notre mémoire, le développement cognitif des enfants. Olivier Houdet, je rappelle donc que vous êtes professeur en psychologie cognitive. Quels sont les liens entre la mémorisation et l'attention et le digital, l'utilisation des écrans?
dans le cerveau, pour mémoriser, il faut être attentif. C'est la toute première chose. Il faut être attentif et en quelque sorte inhiber les distracteurs et vous concentrer sur le matériau, le texte par exemple, à mémoriser. Ensuite, il y a différentes formes de mémoire. Si vous mémorisez des connaissances générales, c'est une mémoire sémantique. Si votre mémoire est relative à des épisodes particuliers de votre vie, c'est une mémoire épisodique. Vous voyez, il y a toute une distribution de formes de mémoire dans le cerveau. Ce que les écrans peuvent changer, c'est précisément externaliser cette mémoire, sauf celle de nos émotions, bien sûr, et de notre vie vraiment personnelle. Et encore, on voit combien les adolescents externalisent leur intimité, leurs émotions, à leurs dépens, en fait. Donc, il y a un vrai sujet, il y a une confusion aujourd'hui entre la mémoire de notre cerveau et la mémoire externe. Et il faut apprendre ce qu'on appelle la métamémoire, c'est-à-dire à contrôler sa mémoire comme un secret précieux. Il y a des souvenirs qui n'appartiennent qu'à chacun ou que l'on partage avec ses amis proches et pas tous les amis d'un réseau social. Et cela s'apprend. Les enfants d'aujourd'hui sont démunis face au contrôle de leur propre mémoire. Il faut leur dire que c'est un territoire précieux qui est le leur. Et la mémoire, c'est le jardin de l'intelligence. Et donc, si leur mémoire n'est pas maîtrisée par eux, eh bien, leur intelligence ne le sera pas non plus.
Pierre-Marc de Biasi, certains parlent d'amnésie numérique, l'hypothèse selon laquelle des groupes d'individus ont de plus en plus de mal à se remémorer des informations basiques de leur vie privée, dans la mesure où ces données sont externalisées et stockées sur nos écrans.
Écoutez, pratiquement une personne sur trois ne connaît plus le numéro de téléphone de son épouse ou de son époux, ni de ses enfants, simplement parce que c'est la machine qui le fait automatiquement. Et c'est vrai, de plus en plus de quantité, d'où la panique. Si vous perdez votre smartphone ou s'il n'y a plus de batterie, tout d'un coup, vous savez plus quel rendez-vous vous avez, à qui vous devez prendre contact, ni comment, puisque vous n'avez plus le numéro non plus. Non, il y a véritablement quelque chose d'inquiétant dans la façon de déléguer à une machine des fonctions cognitives et surtout mémorielles qui sont, comme vient de le dire, une sorte de bien précieux. Or moi, je suis pas complètement sûr, si vous voulez, qu'on ne soit pas en train de désapprendre ces valeurs-là. Vous voyez, c'est tellement facile, c'est tellement commode d'avoir un outil qui prend en charge tellement de choses qu'au fond, au bout du compte, on pourrait progressivement laisser se déléguer les unes après les autres toutes ces fonctions mémorielles au profit de quoi ? D'un jouir, quoi, tout simplement, d'un jouir de la vie, du temps, sans se rendre compte que l'ennui, mais alors là, celui qui tue, quoi, est au rendez-vous.
Audrey Boëlly de Saint-Mathérès.
Oui, mais en fait, ça me fait, là, pour rebondir sur ce que vous disiez, cette peur de pas avoir son portable sur soi, parce qu'on lui délègue tellement de choses. En fait, c'est vrai que là, de nouveaux comportements naissent avec l'arrivée du numérique, des comportements qui peuvent être un petit peu étonnants, et dont la nomophobie, qui est en fait la peur d'être justement de pas avoir son portable, ou de plus avoir de batterie, ou d'être déconnecté.
Exemple là, avec cet extrait d'un reportage de BFM TV.
Oui, ça m'angoisse.
Ça fait GPS, ça fait tout, donc oui, je suis vachement accro à mon téléphone.
C'est vrai, j'ai peur de le perdre. J'ai tous mes contacts dessus, j'ai tous mes codes.
Je suis perdu, je sors mon smartphone et je vais chercher un café, parce que j'avais rendez-vous à cet endroit-là. Ou bien je cherche un marchand de journaux. Donc aujourd'hui, vraiment, le téléphone sert à tout, à me connecter aux autres, à aller chercher de l'information. Et ben sans ça, je suis un tout petit peu perdu.
La nomophobie, la peur d'être séparé de son portable, Audrey Boëlly, c'est l'une des nouvelles pathologies du numérique qui affecte notre cerveau.
Oui, tout à fait. Il y a une étude d'ailleurs qui a été menée sur la nomophobie, qui en fait le mot vient de la contraction de no mobile phobia en anglais. Et donc l'étude qui a été menée, c'était en 2012 sur 1 000 d'étudiants dans différents pays à qui on a retiré le portable et la moitié d'entre eux ont déclaré que qu'ils avaient des angoisses, une vraie anxiété, même des palpitations cardiaques et qu'on paraissait à tenir plus d'une journée sans leur smartphone.
Comment on résiste, Olivier Houdet?
Alors, faut d'abord dire que ce qui vient d'être décrit est vrai, mais ça passe assez vite. Contrairement à une addiction qui est beaucoup plus chimique, comme l'alcool ou la drogue, plus ou moins dure. Donc, le fait que très rapidement, finalement, le cerveau retombe sur ses pattes, si je puis dire, et du coup, ceux qui n'ont pas leur smartphone vont aller demander à leurs voisins une information, vont plutôt aller faire une promenade dans les bois ou au bord de la plage. Donc, moi, je dis faites confiance au cerveau. Le cerveau a des millions et des millions d'années de construction biologique à affronter dans l'histoire de la civilisation, l'apparition de l'écriture, de la lecture, qui était une vraie révolution. On utilisait des symboles pour échanger, alors qu'avant, on utilisait des gestes, des objets. Le cerveau s'y est adapté, a intégré de nouveaux réseaux neuroculturels pour la lecture et l'écriture. Ensuite, elle est devenue à grande échelle avec l'imprimerie. Aujourd'hui, c'est vrai, de façon ultra rapide, est arrivé le numérique et sont arrivés les écrans. On est donc là dans une phase d'adaptation où il y a en effet des dérives, des excès, des dangers, ce que l'on signale aujourd'hui dans le débat. Mais faisons confiance au cerveau. Et c'est pourquoi, quand un ado est privé de son smartphone, ok, il y aura des palpitations, des agitations les 2-3 premiers jours. Et après, vous verrez combien rapidement il va imaginer une solution pour retrouver le numéro de téléphone qu'il n'a pas.
Mais au fond, pourquoi, en règle générale, consulter son smartphone semble plus attractif que de lire un livre, de lire l'éducation sentimentale de Flaubert, Flaubert qui vous est cher, Pierre-Marc de Biasi.
Mais on va le mettre sur smartphone, sinon...
Ça existe déjà.
Oui.
Pourquoi c'est plus attractif?
Allez-y.
En fait, je crois que c'est véritablement une fiction du rapport aux autres qui est en cause. Avec votre personne, vous êtes en permanence en relation avec une communauté. Et vous avez tout ce qu'il faut comme application pour vous mettre au défi d'être de plus en plus en communication. Vous savez, vous êtes évalué là-dedans. Hein. Votre personne vous dit, mais attendez, là vous étiez le premier, là vous avez chuté, hein. Ça fait quand même 15 secondes que vous n'avez plus de connexion, etc. Avec machin. Donc, une sorte de modèle de société qui est quand même celui de la concurrence, celui de la course à la vitesse, celui des performances et de l'évaluation.
Julien Bisson, du 1.
Oui, je crois qu'il ne faut pas non plus opposer le fait d'avoir un smartphone et d'être capable de lire Flaubert. En revanche, ce qu'il faut pouvoir favoriser, c'est une forme d'éducation à la déconnexion volontaire. C'est-à-dire de dire si vous avez besoin de travailler, de vous concentrer, eh bien, vous enlevez votre Wi-Fi ou votre 4G, vous essayez de vous déconnecter. C'est pour ça que les enfants aussi, quand ils regardaient la télévision, on a beaucoup regardé la télévision quand on était enfant, mais ce n'était pas un écran connecté. C'est une différence d'écran et qui, je crois, fait toute la différence ici.
Audrey Boëly.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que dit la neuroscientifique Marianne Wolf sur justement la lecture et justement les modifications qu'apporte le numérique. Qu'en fait, sur le numérique, on a une lecture qui est plus fragmentée, qui est du coup moins approfondie, et que c'est plus compliqué de comprendre des textes complexes, justement, revenons à Flaubert, et que typiquement, ces textes-là, il vaut mieux les lire sur papier. Et quand on fait une grande recherche d'informations, là, aller sur le web. Mais pour la compréhension de textes complexes, en fait, on est plus efficace sur le papier.
Une question revient beaucoup ce matin. Est-ce que les écrans, le digital, modifient la structure du cerveau des jeunes, les fameux digital natives, ceux qui sont nés avec le numérique? Est-ce que le cerveau des jumeaux Nora et Samuel, nés hier, verront leur cerveau se modifier au cours du 21e siècle, eux qui naissent dans un monde totalement numérique?
Votre question portait sur la structure du cerveau. Non, la structure du cerveau ne va pas se modifier, tout comme elle ne s'est pas modifiée quand sont arrivées l'écriture et la lecture. En revanche, le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire les connexions, les réseaux que j'appelais tout à l'heure neuroculturels. Pourquoi neuroculturels? Parce que ce sont des réseaux de neurones produits spontanément par vos jeunes jumeaux qui viennent de naître. Donc, ils sont produits spontanément de façon aléatoire. Et ensuite, les stimulations de l'environnement vont venir créer des connexions, en éliminer certaines, en renforcer d'autres. Si vous êtes face à un livre, eh bien ce seront des connexions littéraires. Si vous êtes face à un écran, ce seront des connexions numériques. Donc ce sont les réseaux qui vont changer, mais pas la structure du cerveau. Et ça, c'est important de le dire, ça nous rassure. On a quand même un invariant fondamental extraordinaire depuis des millions d'années dans l'histoire du vivant, qui est le cerveau humain, et qui connaît en effet des chocs et des révolutions culturelles. Et celle-ci est peut-être le numérique la plus importante. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec votre journaliste et chroniqueur. Il faut entrer la résistance volontaire aux écrans, ce qui ne veut pas du tout dire ne pas les utiliser avec intelligence, mais justement résister aux automatismes face aux écrans lorsqu'ils sont ennuyeux, trop répétitifs, ou qu'il s'agit d'une manipulation politique ou marketing de l'extérieur qui, à ce moment-là, réduit finalement le potentiel de notre cerveau.
Allez, il existe des bienfaits aux écrans. Exemple avec l'équipe de la neuropsychologue Daphné Bavelier de l'Université de Genève.
Les jeux vidéo d'action ont une capacité à forcer le système nerveux à prendre des décisions très rapidement. C'est-à-dire que typiquement, si je vous demande d'aller très vite, vous allez avoir tendance à faire plus d'erreurs. Mais les gens qui jouent aux jeux vidéo d'action ou de guerre sont des gens qui prennent des décisions très rapides, mais ne présentent pas plus d'erreurs. Et il se trouve que, justement, ces jeux de guerre, chez des gens qui sont des gens jeunes, normaux, des étudiants par exemple, augmentent la capacité à rester concentré et à ignorer des sources de distraction.
Extrait de l'émission de temps présent sur la RTS en 2014, Audrey Boëly.
Oui, c'est très intéressant de voir le travail donc de cette équipe qui montre qu'en effet, notre cerveau s'adapte et en fait développe de nouvelles capacités suite à nos activités numériques. Là, on parle de jeux vidéo. Mais c'est aussi important de... l'équipe de Daphné Bavelier fait partie des équipes qui alertent aussi sur l'impact des écrans sur les plus jeunes enfants, notamment sur l'apprentissage du langage. Et donc, qui alertent sur le fait que, d'après leurs études, 2 heures quotidiennes passées à regarder des vidéos entre 15 mois et 4 ans multiplie par 3 la probabilité de voir apparaître un retard de langage.
Olivier Houdet.
Oui, c'est exact. Pour le langage humain, il faut ce qu'on appelle un bain linguistique réel, c'est-à-dire parler avec ses parents, les frères et sœurs et avoir ressentir des émotions dans l'échange de la communication. Et donc, les logiciels, par exemple, sur écran faits pour apprendre le langage ne marchent pas du tout et sont à déconseiller dans les premières années. En effet, continuons de parler avec les enfants, d'interagir, mais de mettre à la fois discrètement dans leur environnement, à la fois des livres et des écrans.
Un mot de conclusion, Pierre-Marc de Biasi.
On dit souvent, ce qui est formidable avec le smartphone et le numérique, c'est qu'on peut faire plusieurs trucs à la fois. Et ça fait gagner du temps. Du temps pourquoi ? Pour revenir au smartphone, à faire autre chose, par exemple pour jouer.
Merci à tous. Je recommande vraiment la lecture du Troisième Cerveau de Pierre-Marc de Biasi au CNRS Édition. Vous reviendrez, parce qu'il y a encore plein de choses à dire autour de votre ouvrage. Olivier Houdet, vous revenez mercredi prochain, oui. Car des enfants vous poseront des tas de questions sur le cerveau. Ce sera mercredi prochain. Audrey Boëly, merci. Le numéro de Ça m'intéresse, le nouveau numéro est disponible en kiosque. Demain, on s'intéresse à l'homoparentalité. En questionnant la PMA, la GPA, l'adoption. Posez-nous vos questions. Est-ce que vous partagez le fait que l'on puisse adopter des enfants ou que l'on puisse recourir à la PMA ou la GPA quand on est gay ou lesbien? Ou est-ce que vous désapprouvez? On attend toutes vos questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. À la technique ce matin, Kevin Pelot et Nicolas Delmas. À suivre, Nagui et sa bande originale.